Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer le syndrome de Myhre et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur David Yang. Docteur Yang, bonjour.
Bonjour.
Docteur Yang, vous êtes pédiatre libéral. Vous avez travaillé en tant que chef de clinique au sein des urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris. Et lors de votre thèse que vous avez réalisée avec le professeur Cormier-Der, vous avez particulièrement travaillé sur le syndrome de Myhre. Alors aujourd'hui, Dr Yang, nous nous intéressons principalement à la prise en charge cardiovasculaire et pneumologique des jeunes patients touchés par ce syndrome de Myhre. Et on va débuter par l'aspect cardiovasculaire. Quelles sont ces atteintes cardiovasculaires qui peuvent toucher ces jeunes patients?
Alors, donc pour le syndrome de Myhre, le syndrome de Myhre, tout d'abord, c'est une mutation qui est liée au niveau du gène SMAD4. SMAD4, c'est un médiateur du signal TGF-bêta, BPM, et qui joue un rôle important dans la différenciation cellulaire, la régénération tissulaire. Sur le plan des maladies cardiovasculaires, SMAD4 est connu déjà pour son rôle dans la fibrose, par exemple après un infarctus du myocarde, mais également pour son rôle dans le cas de l'insuffisance cardiaque, dans les anévrismes, dans la rigidité artérielle et l'hypertension. Dans le syndrome de Myhre, nous avons des atteintes cardiovasculaires qui peuvent être congénitales, mais également acquises. Sur le plan des atteintes cardiaques congénitales, on a un large spectre de présentations cliniques qui peuvent être parfois des malformations cardiaques complexes de type tétralogie de Fallot. On retrouve également des cas de coartation de l'aorte. La coartation de l'aorte, elle peut rentrer dans un tableau clinique de complexe de Schoen. Il y a également des malformations cardiaques plutôt mineures de type communication interauriculaire ou interventriculaire qui ne nécessite pas forcément de prise en charge chirurgicale. Et on a aussi des cas de canal artériel persistant. Ces anomalies congénitales cardiaques concernent environ 60% des patients. Ensuite, nous avons des atteintes cardiaques qui sont acquises dans le temps. Et la manifestation là, qui est bien décrite dans la littérature est l'épanchement péritale cardique. Elle se produit sans facteur déclenchant identifié à ce jour et elle est souvent récidivante. Cet épanchement peut être abondant et menaçant le pronostic vital. Il est donc important de le rechercher chez tout patient qui a une douleur thoracique ou une dyspnée. Il a été décrit chez certains patients jeunes adultes des situations de cardiomyopathie restrictive. On retrouve également des cas d'hypertension artérielle systémique. Cela concerne des patients en début d'adolescence et également chez les patients adultes. Et enfin, pour finir, on a des atteintes qui vont concerner le système vasculaire, notamment au niveau des gros et moyens vaisseaux du système artériel. Les patients ont la particularité d'avoir un aspect rigide, hypoplasique, avec un calibre plus petit que la normale au niveau de l'aorte descendante, mais également au niveau des branches collatérales comme le tronc cœlial, l'artère splénique, les artères mésentériques et les artères rénales. On retrouve souvent la présence de sténose vasculaire. On a aussi des atteintes au niveau des artères carotidiennes. Ces sténoses carotidiennes peuvent aboutir jusqu'à un syndrome de Moya-Moya.
Et quelle prise en charge et quel suivi peut-on leur proposer?
Alors, pour la prise en charge de toutes ces pathologies, eh bien, on va faire donc également par type. Pour les pathologies cardiaques congénitales, les échographies anténatales et la présentation clinique néonatale orientent rapidement le diagnostic cardiovasculaire et la prise en charge est souvent chirurgicale pour les malformations sévères. Toutefois, il y a à noter que ces atteintes ne sont pas spécifiques au syndrome de Myhre et on ne pense pas au syndrome de Myhre lorsqu'on fait face à ces malformations le diagnostic du syndrome de Myhre est fait plus tard. Concernant les pathologies cardiaques acquises, l'épanchement péricardique, tout d'abord le traitement, ce sont des traitements qui sont assez classiques, notamment des anti-inflammatoires pour les formes modérées, mais on peut avoir des formes aiguës et menaçantes qui nécessitent une prise en charge urgente chirurgicale ou bien par ponction évacuatrice. Concernant la cardiomyopathie restrictive, le diagnostic se fait sur cathétérisme cardiaque. Le traitement est médical par bêta-bloquant, ARA2, antagoniste de l'aldostérone ou diurétique de l'anse. Et puis ensuite, pour l'HTA, ça nécessite d'être mis sous bêta-bloquant ou ARA2. Il n'y a pas de consensus qui a été fait à ce sujet. à ce jour. Toutefois, il est important de rechercher la présence potentielle de causes secondaires comme sténose rénale, puisque les cas de sténose peuvent, une sténose des artères rénales, puisque les cas de sténose d'artères rénales peuvent être retrouvés chez les patients atteints de syndrome de Myhre. Concernant les pathologies vasculaires propres aux gros et moyens vaisseaux, on a remarqué qu'en reprenant l'histoire clinique des patients, on constate qu'on retrouve des anomalies vasculaires dites sténosantes dans l'enfance, vers 9 ans, vers 10 ans, sans forcément de manifestation clinique, donc il n'y a pas lieu de les traiter à ce moment-là. En revanche, elles peuvent être symptomatiques chez le jeune adulte et elles peuvent parfois conduire à des tableaux d'ischémie aiguë, notamment dans l'adolescence tardive et chez le jeune adulte. Et on a des tableaux d'ischémie aiguë du type viscéral, mais également des accidents vasculaires cérébraux. Au total, il est nécessaire de faire un plan annuel cardiovasculaire avec une échographie cardiaque morphologique et fonctionnelle, une mesure de la tension artérielle, et puis vers 9-10 ans, il peut être intéressant de réaliser une imagerie vasculaire, soit par enjeu IRM ou à défaut par enjeu scanner, à la recherche de sténose vasculaire viscérale, mais également cérébrale.
Et au niveau pneumologique, cette fois, quelles sont les atteintes les plus fréquentes chez ces patients touchés par le syndrome de Myhre?
Alors, sur les atteintes respiratoires, celles qui nous inquiètent le plus, ce sont les pathologies obstructives, car on retrouve des sténoses au niveau coanal, laryngé et trachéal, qui peut nécessiter une prise en charge chirurgicale avec une trachéostomie. On peut retrouver également chez certains patients de l'emphysème pulmonaire, dont on pense qu'ils peuvent être consécutifs à une sténose des voies aériennes plus distales. On a également des cas de syndrome restrictif qui sont multifactoriels. Il faut comprendre que les patients atteints de Myhre ont une taille qui est plus petite, le volume de la cage thoracique est réduite, ils ont des côtes plus larges et le volume pulmonaire est également réduit. Donc, d'où et tous ces facteurs conduisent à un syndrome restrictif. Et ensuite sur nos données, on a aussi des présentations d'épanchement pleural qui sont retrouvées chez la moitié des patients qu'on conçut à Necker. Ces patients présentent des pleurésies d'origine parfois infectieuse, pour lesquelles on retrouve par exemple du pneumocoque ou de l'hémophilus dans le liquide pleural, mais dans la plupart des cas, on ne retrouve pas forcément de germes. Et pour finir, de façon plus anecdotique, certains patients présentent de l'asthme, mais on n'a pas identifié à ce jour un sur-risque par rapport à la population générale.
Et en termes de prise en charge et de suivi au niveau pneumologique, Dr Yang, quelles sont les possibilités pour ces patients?
Alors, sur la prise en charge respiratoire, les atteintes obstructives des voies respiratoires hautes et basses peuvent conduire à un syndrome d'apnée du sommeil obstructif qui se manifeste à l'adolescence. Et il est alors nécessaire de faire une polysomnographie, puis ensuite parfois avoir besoin d'une prise en charge par VNI nocturne. Sur l'évolution à long terme des pathologies obstructives et des pleurésies à répétition, cela peut conduire à une insuffisance respiratoire chronique. Et dans notre cohorte, on a deux patients avec un début de symptômes, avec un début d'insuffisance à partir de l'adolescence. Et la prise en charge est essentiellement par VNI nocturne. Au total, un bilan annuel comportant des explorations fonctionnelles respiratoires est nécessaire pour rechercher un potentiel syndrome restrictif et également des polysomnographies à la recherche d'un SAOS pour compléter tout cet aspect obstructif au niveau des voies respiratoires.
Et pour conclure notre entretien, Dr Yang, quels sont finalement les enjeux du traitement chez les jeunes patients touchés par le syndrome de Myhre?
Les enjeux du traitement, c'est surtout d'identifier les complications précoces au niveau cardiovasculaire et au niveau respiratoire qui sont dues en fait à des sténoses, qu'elles soient vasculaires ou bien au niveau des voies respiratoires. Pour moi, il est important de rechercher ces complications de façon annuelle à partir d'un certain âge, notamment vers l'âge de à la fin de l'enfance ou en début d'adolescence, donc notamment au niveau cardiovasculaire recherché, donc des situations d'hypertension artérielle systémique et pulmonaire, de faire un bilan morphologique vasculaire qu'on retrouve de façon récurrente chez les patients et qui peuvent conduire à des tableaux d'ischémie aiguë sévère. Et sur le plan respiratoire, de rechercher un syndrome restrictif et puis des symptômes également d'insuffisance respiratoire obstructive pour une éventuelle indication de VNI.
Eh bien, merci mille fois, Dr Yang, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le syndrome de Myhre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.